Bonjour, les Gilets jaunes sont-ils en train de faire émerger une nouvelle génération de journalistes, photographes et vidéastes, nouvelle génération avec un nouveau positionnement par rapport aux institutions, avec de nouveaux repères et évidemment sur de nouveaux supports? Et comment les journalistes des médias traditionnels perçoivent-ils cette émergence? Avec nous sur le plateau aujourd'hui, trois journalistes. Taha Bouaf, vous êtes journaliste au site Là-bas, le site monté par Daniel Mermet. Et vous êtes notamment, je le rappelle, l'auteur de la fameuse vidéo qui a révélé les agissements d'Alexandre Benalla, place de la Contrescarpe. C'était le 1er mai, mais le 1er mai dernier, ça fait juste un an. Yacine Blotas, vous êtes animateur d'une chaîne Facebook qui s'appelle Civicio, une chaîne consacrée au social au sens large, mais donc évidemment notamment au mouvement des Gilets jaunes. Et je rappelle que vous avez été en garde à vue pendant 29 heures le week-end dernier, on en parlera. Enfin, Emmanuel Anison, vous êtes, vous, grand reporter dans ce qu'on appelle maintenant les médias traditionnels, ou bien les anciens médias, ou bien les vieux médias, c'est-à-dire l'Obs. Peut-être les ex-médias. Et vous suivez le mouvement des Gilets jaunes quasiment depuis le début. Et on parlera évidemment aussi de vos papiers. Mais d'abord, peut-être la pratique professionnelle de nos deux jeunes confrères, sur laquelle on va s'arrêter un peu pour commencer. Alors, c'est une pratique qui est marquée, enfin, il y a plusieurs caractéristiques, et une caractéristique, c'est qu'elle semble être marquée par un rapport assez conflictuel avec les forces de l'ordre, en général. Rapport conflictuel que vous documentez dans vos propres vidéos, et pour ne prendre donc que deux exemples récents, vous, Taha Bouaf, pas plus tard qu'il y a deux jours, donc le 1er mai, votre téléphone portable s'est retrouvé dans les mains de la police et vous a été restitué dans des conditions, on va dire, acrobatiques. On regarde votre vidéo. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu, mais il y a tout ce qu'on n'a pas vu. Alors, pourquoi vous prend-on votre téléphone à ce moment-là?
En fait, à ce moment-là, c'est juste après, une séance de gazage en règle du cortège syndical. Et en fait, à ce moment-là, tu as plusieurs brigades de CSI.
CSI?
Voilà, ça c'est des CSI.
C'est quoi des CSI?
C'est une brigade d'intervention. Et la BRAVEM, donc la nouvelle brigade de Castaner, qui baroude en moto, bon, c'est les nouveaux voltigeurs. Et je filmais à ce moment-là, en fait, leur intervention, donc ils couraient sur les manifestants. Et là, ils sont allés pour interpeller des gens un peu au hasard. Donc ils sont allés attraper des gens sur le trottoir. Et du coup, je filmais ce moment-là. Et tu avais une jeune fille qui pleurait, voilà, qui disait mais j'ai absolument rien fait. Bon, moi, j'étais témoin de la scène et elle était juste là sur le trottoir. En fait, c'est un peu la première personne qui, quand il y a un pavé qui vole, bah, ils courent et puis ils attrapent un peu la première personne sur qui ils tombent, quoi. Et donc, du coup, moi, à ce moment-là, je filme ce moment-là. Et donc, le policier arrive vers moi, ils sont en train d'interpeller. Et en fait, ce qu'ils font généralement, c'est que quand il y a une interpellation, ils cachent un peu ce qui se passe et ils viennent vers ceux qui filment. Et donc, moi, il arrive vers moi, je lui dis, écoutez, je suis journaliste et je parle très tranquillement.
Et on voit la tenue que vous avez.
Voilà, je lui dis, écoutez, je suis journaliste, je fais mon boulot, faites le vôtre, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, il m'arrache mon téléphone. Et je lui dis, mais c'est pas possible en fait, vous pouvez pas m'arracher mon téléphone, il a pas le droit de m'empêcher de filmer, quand bien même j'étais pas journaliste. Hein. Et donc à ce moment-là, t'as cinq policiers qui viennent vers moi, et on voit pas le début de la séquence, mais donc ils me poussent vers le grillage, ils se mettent à me menacer en mode, attention, ferme-la, parce qu'il y a des caméras, et ferme-la sinon on va te sécher, alors, ils me menacent, tu vois, parce qu'ils savent qu'il y a des caméras et que ça fait pas bien quoi, d'avoir un scandale. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une connerie, quoi. Et donc à ce moment-là, bah, moi je lâche pas l'affaire, je leur dis mais en fait vous avez pas menacé, vous avez pas m'arracher mon téléphone, vous me le rendez. Et donc quand ils ont compris qu'à un moment donné en fait ils avaient déconné et qu'il y avait toutes les caméras qui étaient tournées vers eux, le mec sur un coup de nerf il a jeté mon téléphone, quoi. Mais il y aurait pas eu de caméra, il aurait très bien pu partir avec mon téléphone et m'emmener avec.
Alors mais enfin vous avez été pris, si j'ose dire, au hasard. Parce que quand vous avez mis en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux, il y a eu toute une série de réactions sur le thème. Ah bah comme par hasard.
Je l'ai pas mis en ligne, hein.
Ah, bah alors, ah oui, parce que... Oui, ah, moi, d'accord, j'ai donc c'est la personne qui filme et qui est témoin qui l'a mise en ligne. On sait qui c'est ?
Oui, c'est un journaliste de RT France.
C'est un journaliste de RT France, d'accord. Parce que les réactions ont été, comme par hasard, ils s'en prennent à Tahabouaf, qui est le type de la vidéo Benalla. Donc, comme le pouvoir en veut à Tahabouaf, etc.
Je ne crois pas qu'ils aient compris que c'était moi. Enfin, j'étais casqué, lunetté, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, la veille... Déjà, c'est symptomatique d'une façon de traiter les journalistes sur le terrain. Quand je filme une interpellation, il sait que je ne suis pas journaliste à BFM TV. C'est symptomatique d'une façon de traiter les journalistes. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, la veille de ça, j'ai reçu un coup de fil de la police qui me disait que j'étais convoqué parce que le procureur de la République de Paris a ouvert une information judiciaire contre moi pour un tweet. Pour un tweet que j'ai fait sur les événements de Grenoble. D'ailleurs, vous avez fait un article là-dessus, sur la mort des deux jeunes, Adam et Fatih, où j'ai écrit que deux jeunes étaient morts à cause de la police à la suite d'une course-poursuite. J'établis un lien de causalité avec l'opération de police, j'établis pas de responsabilité. La vérité, c'est que si cette course-poursuite n'avait pas été engagée, ils ne seraient pas morts.
Ce tweet-là qui vous vaut une convocation
par le procureur et une enquête. Et ce que je remarque en tout cas, c'est que le procureur de Paris est beaucoup plus rapide à convoquer des journalistes pour un tweet que les policiers eux-mêmes, finalement, pour des mutilations. Il y a 290 enquêtes aujourd'hui qui sont bloquées.
On parle d'enquête interne de l'IGPN ou on parle d'enquête de justice ?
Enquête de justice et enquête... Sur les enquêtes de l'IGPN, c'est 290. Mais sur les affaires de violence policière, et notamment dans les quartiers populaires, les policiers, généralement, ils sont pas écoutés. Moi, je m'étonne juste du fait que le procureur de Paris ouvre une information judiciaire contre un journaliste pour un tweet, c'est clairement pour moi une atteinte à la liberté de la presse, quoi.
Alors, vous aussi, vous avez eu des petits soucis avec la police, c'était le week-end dernier, donc vous avez été interpellé, placé en garde à vue, et alors vous, à la différence de Tahabouaf, puisqu'on vous avait laissé votre téléphone portable, vous avez filmé votre propre interpellation, on regarde le début de la bande.
Bienvenue à tous les amis en direct sur Civicio. J'espère que vous allez bien, du coup je viens seulement de lancer parce que c'était un petit peu compliqué de rejoindre. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Je vous filme pas, messieurs. Hein. Je suis en.
Bonjour.
Ouais.
Hop.
Vous êtes journaliste ?
Ouais, je suis journaliste.
Vous êtes interdit de presse ?
Non, du tout.
D'accord, vous savez que les casques, c'est interdit ?
Les casques ?
Sur la manifestation, c'est interdit.
Vous rigolez ? C'est un casque, je vais faire quoi avec un casque ?
Vous êtes journaliste, vous avez pas de carte de presse, monsieur ?
Comment ?
Vous êtes journaliste, mais vous n'avez pas de carte de presse sur vous.
Non, mais on n'est pas obligé d'avoir une carte de presse pour être journaliste. La carte de presse, ça sert à rien, en fait. À part avoir accès à un banquier, ça change rien. En fait. Au revoir, désolé les amis. Je ne sais pas si je reviendrai tout à l'heure.
Bon, il y a du vent, le son n'est pas parfait. Hein. Mais ça veut dire qu'en fait, vous prenez le live, parce qu'on ne le voit pas dans l'image, mais vous prenez le live alors que vous êtes juste devant les policiers.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a des jours comme ça où on se lève le matin et on sent que ça va être pour nous. Et ça faisait... Non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que j'ai lancé mon direct. Juste derrière moi, en fait, il y a une station de bus à 10 mètres sur la gauche. Le bus m'avait déposé, je suis descendu du bus, j'ai lancé mon direct. Et je sentais que ça allait pas bien se passer. Et je voulais avoir des preuves. Je voulais avoir des éléments qui prouvent que j'étais bien en dehors, etc. etc. Et voilà, tout simplement.
Mais quel est le dispositif de police qui se trouve devant vous à ce moment-là ?
Trois policiers.
Trois policiers, et vous voyez qu'ils contrôlent les sacs ?
Parce que ils contrôlent pas les... En fait, il y a des gens qui passent. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que sur la vidéo, à 1 minute 30, 1 minute 40... on voit des gens qui passent avec des casques. Parce qu'en fait, je pose la caméra au sol, et du coup, on voit en contrebas, et on voit des gens qui passent avec des casques. Et donc, à ce moment-là, ça donne un peu le ton de l'ambiance, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent à côté de moi, avec du matériel, etc., etc. Et moi, je suis mis sur le côté et fouillé par trois policiers. Et la semaine précédente, ils m'avaient saisi l'intégralité de mon matériel de protection, en me disant, on vous fait une fleur, on vous laisse repartir. Et ça, c'était en pleine rue, à 1 km de la manifestation.
D'accord.
Par la BAC, et par des policiers en civil.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous vaut d'être emmené en garde à vue là cette fois-ci, selon vous ?
Attroupement en vue de commettre un délit.
Attroupement. C'est-à-dire vous êtes attroupé là ?
Bah apparemment.
D'accord.
Il semblerait que là j'étais attroupé avec moi-même et les plusieurs personnalités qui me composent. Et donc voilà, j'étais en train de commettre un délit avec, je pense, un appareil photo. Enfin voilà quoi. Des éléments assez dangereux, je pense qu'un trépied aussi, ça fait peur.
D'accord. Alors, 29 heures de garde à vue, juste pour savoir, ça se passe comment ? On vous demande quoi ?
En fait, c'est assez invraisemblable parce que vous êtes là, vous savez que vous n'avez rien fait. Personne n'est capable de vous dire pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire qu'on a, mis... En fait, l'officier de police judiciaire n'a même pas eu le courage de me dire quel était le motif. Il m'a dit, lisez le procès-verbal.
Vous lui avez demandé ?
Je lui ai demandé. J'ai demandé à tous les officiers de police judiciaire qui étaient dans la même pièce que moi, pourquoi suis-je ici ? Personne n'a su me répondre.
D'accord. Mais alors, on vous pose des questions ?
Alors, on vous pose des questions. Au début, moi, j'ai refusé, en fait, très rapidement les auditions, etc., parce que je voulais avoir mon avocat. En fait, comme vous ne répondez pas aux questions, on vous met très rapidement en cellule, parce que, voilà, ça... On ne va pas dans leur sens, et ça traîne, et on fait durer, en fait, le plaisir.
Emmanuel Anison ?
Je trouvais ça intéressant, quand Cécio, dans le reportage, là, quand le policier dit « Vous avez votre carte de presse ou pas ?» Parce que moi, je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où j'ai été nassée, en situation d'être embarquée avec des gens qui sont partis en garde à vue. Et parce que, in fine, j'avais ma carte de presse, même si j'avais été bousculée avant, un peu tabassée, les boucliers, etc. Le fait d'avoir la carte de presse et d'un média en plus dit un peu officiel fait qu'à chaque fois, finalement, ils se sont arrêtés et ils m'ont relâchée, quoi. Et c'est toute la question que ça pose aussi dans ces manifestations aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de journalistes qui simplement n'ont pas carte de presse, que c'est des nouveaux médias qui ne la souhaitent pas, ou, enfin peu importe. Et cette zone grise, les forces de l'ordre ne savent pas quoi faire avec, parce que y a pas de reconnaissance officielle, ils peuvent être, y a plein de manifestants qui par ailleurs filment aussi, et donc on est dans une espèce de zone comme ça, et dès qu'en fait il y a l'image, ils sont paniqués.
Enfin, quand on dit ils savent pas quoi faire, en général ils savent très bien quoi faire, c'est-à-dire que dans le doute ils embarquent.
Exactement.
Donc ils savent
quoi
faire.
Oui, non, mais bien entendu.
Ils savent quoi faire.
Et par ailleurs, par exemple, il y a 15 jours, ce qui leur fait peur, c'est vraiment l'image, parce que même avec la carte de presse. Il y a 15 jours, Place de la République, j'étais avec mon photographe et quelqu'un de la vidéo de l'Obs, avec les brassards presse pour le coup, voilà. Ça ne nous a pas empêché de recevoir un flashball, un tir de grenade. Bon, c'est-à-dire qu'à un bon moment, le fait d'être avec presse et 15 journalistes, on devient aussi une cible quand même. Hein.
Et d'ailleurs, ça pose une question tout à fait d'actualité, puisqu'à la suite de la mise en garde à vue, donc le même week-end que vous de Gaspard Glanz, vous avez dû le voir, 300 reporters, journalistes, photographes et vidéastes en général indépendants. Alors, n'ont pas demandé la carte de presse pour tout le monde, ils ne sont pas aussi maximalistes, mais dans une tribune qu'ils ont signée, ils demandent, alors si j'ai bien lu, ils demandent à la commission de la carte de presse, de la carte d'identité des journalistes professionnels, de tenir compte de l'évolution des métiers en disant, nous attribuons une carte de presse, cette commission marquerait sa solidarité avec les plus précaires d'entre nous et ferait un geste politique fort en faveur de la liberté de la presse en France. Vous l'avez, la carte de presse ?
Non.
Est-ce que vous souhaitez l'avoir ?
Moi, je vais faire ma demande parce que ça fait plus de 3 mois maintenant que je suis sous contrat. Moi, j'ai un contrat de travail sur la Convention collective des journalistes, donc je me retrouve dans des situations assez invraisemblables. Moi, je suis assez d'accord avec cette tribune. D'ailleurs, je contacterai les initiateurs pour la co-signer aussi. Mais,
ils vous ont pas contacté ?
Non.
Bon, bah alors, on est à 301.
Bon. Et il y en a déjà 350. Ça a été renouvelé.
351.
Moi, je suis assez d'accord avec le constat de cette tribune et je crois que les conditions d'attribution de la carte de presse, ils doivent être réévaluées. Il y a une évolution, exactement comme tu disais, du métier, des façons d'apporter l'information et il y a aussi voilà, des gens qui sont payés, pas forcément sous le statut de journaliste, mais en auto-entrepreneur, en intérimaire du spectacle, en intermittent du spectacle.
Alors l'argument de la commission de la carte, c'est de dire oui, mais si on se met à l'accorder aux gens, par exemple, qui sont payés en entrepreneur ou qui sont payés au lance-pierre, parce que dans l'émission qu'on faisait la semaine dernière avec Gaspard Glanz, il racontait les conditions dans lesquelles sont payées les photos, par exemple. Il nous disait qu'une photo qui paraît dans Libé, c'est 50 euros.
Donc, il y a un truc qui est assez incroyable.
Alors, donc c'est compliqué, la commission établissant des revenus mensuels minimum, si vous voulez, pour accorder la carte, est compliqué d'arriver à un demi-SMIC, puisque ces revenus mensuels minimum sont d'un demi-SMIC, compliqué d'y arriver avec des photos payées 50 euros. Et donc la commission dit, si on commence à accorder des cartes, entre guillemets, au rabais, c'est-à-dire à des gens sous-payés par leur rédaction ou payés en auto-entrepreneur, on va encourager les patrons de presse à payer en auto-entrepreneur ou à payer au rabais.
Moi, je crois que soit on réévalue les conditions de la carte de presse, soit on augmente les rémunérations pour les journalistes pigistes. Il n'y a pas 36 solutions. Mmh. On se retrouve quand même dans des situations assez grotesques. Moi, je suis journaliste, je fais mon travail. À un moment donné, j'amène du matériel de protection avec moi et je dois me retrouver à essayer d'esquiver les barrages de police, de trouver des stratagèmes pour échapper à la police parce que sinon, ils vont me retirer mon matériel ou je vais peut-être être embarqué parce que je ne veux pas détruire mes poumons alors que je suis sur mon lieu de travail. Donc, on se retrouve vraiment dans des situations très grotesques. Il le disait tout à l'heure, parfois, je suis obligé de prendre des trottinettes électriques pour tracer sur une route pour éviter de me faire contrôler par la police, d'essayer de sortir par des sorties de métro. Mais c'est assez incroyable.
Ils n'ont pas encore compris le coup et ils ne contrôlent pas encore les trottinettes électriques ?
Pas encore.
Pas encore.
Mais peut-être que là, ils auront le...
Vous allez leur donner le...
Parce que peut-être que là, ils auront le filon. Mais c'est, voilà, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut soit augmenter les rémunérations, soit réévaluer les conditions d'attribution de la carte de presse, c'est sûr.
Alors, je pense que vous n'avez pas encore non plus la carte de presse. Vous êtes trop récent dans l'activité.
Oui, déjà. Et puis en plus, pour l'instant, comme tous les financements que j'ai proviennent de dons, en plus, c'est encore plus compliqué pour justifier que ces dons sont bien le fruit d'un travail de journalistique, etc. Et donc après, il y a toute une question de statut derrière.
Est-ce que vous souhaiteriez qu'elle puisse être accordée à quelqu'un comme vous qui travaille sur un média émergent, donc qui vit
Moi, ce que je souhaiterais, c'est simplement qu'on puisse respecter les droits fondamentaux des gens et que qu'on soit journaliste ou pas, avec une carte de presse ou pas, à partir du moment où on a le droit de filmer, c'est une liberté, qu'on a le droit de se déplacer dans la rue librement, on a le droit d'être présent, et à partir du moment où on est témoin d'une scène, qu'on ait une carte de presse ou pas, je vois pourquoi on empêche quelqu'un de filmer, en fait. Le problème, il est encore plus profond. Et je crois que rentrer aussi, quelque part, dans cette représentation-là, c'est une manière de contenir les gens tous dans un moule. Mais la réalité, c'est que ce soit Taha ou n'importe qui d'autre, quand on est sur le terrain, on est les seuls témoins à montrer ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette reconnaissance-là? Je veux dire, demain, un mec qui finit par décéder. J'ai lu un article, je crois que c'était de Libération, qui date de l'année dernière, où c'était exactement pour la même raison, pour le même sujet, pour parler justement de l'indépendance des journalistes, de différents statuts, il parlait notamment des intermittents. Et il disait, le jour où un mec décédera sur le terrain, on le reconnaîtra pourquoi ? Pour son travail de journaliste. Quand on va l'enterrer, on va l'enterrer en tant que journaliste. On ne va pas l'enterrer en tant que témoin d'une scène. Donc pourquoi est-ce que sur le terrain, sur le concret, dans la vie réelle, ça c'est pas déjà le cas ?
Vous savez ce que répondent les journalistes. Les journalistes répondent qu'ils sont légitimement, qu'il est légitime de leur accorder une protection particulière sur le terrain, dans la mesure où ils font leur travail et où il est légitime que la police puisse ne pas les confondre avec des manifestants.
Oui. Mais du coup, moi j'y vois là une forme quelque part un peu d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un boulot, on va les reconnaître pour leur boulot dans certaines conditions et pas dans d'autres.
Mais c'est vrai que sur le terrain, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir une carte de presse, ça te permet aussi d'avoir une protection particulière qui ne peut pas être considérée comme quelque chose d'offensif, puisqu'on est là en tant que témoin. Ça permet aussi, moi ça m'est arrivé tout le temps, de pouvoir dépasser des cordons, de pouvoir passer de l'autre côté, et donc d'avoir, même professionnellement, d'autres regards, d'autres visions, d'avoir une liberté qui quelquefois n'est pas évidente quand il y a des nassages, quand il y a une opération en cours de... Voilà. Et c'est vrai sur ce terrain-là, mais c'est vrai de manière plus large, toi, quand tu es sur des terrains de guerre ou sur des terrains, pouvoir passer des deux côtés, quand tu as deux côtés, deux forces en présence, c'est très important de pouvoir dire, moi, je suis un témoin, entre guillemets, neutre, et donc je peux aller dans un camp et dans un autre. Et la carte de presse, elle permet ça, quand même, fondamentalement. Donc c'est vrai que là-dessus, je trouve qu'elle a quand même un intérêt.
Mais voilà, c'est ça.
À qui elle est réservée, c'est ça la question.
En revanche, je suis bien d'accord. Oui. C'est-à-dire que là, il y a une inadaptation complète aujourd'hui, je trouve, de cette méthode d'obtention de la carte par rapport à la réalité des médias que vous représentez. Et aujourd'hui, tout le monde peut être média potentiellement. Donc c'est vrai qu'on est dans cette zone grise dont je parlais tout à l'heure, c'est très compliqué, mais de fait, il faut s'interroger dessus et revoir les règles, parce que vous méritez tous les deux, évidemment, d'avoir cette carte de presse.
Et puis il y a des éléments distinctifs. Moi, j'arrive, sur mon casque est tagué Le Monde, la chaîne. J'ai des preuves qui me permettent de montrer que j'effectue un travail journalistique. Pourquoi le policier qui m'arrête
sur le terrain, c'est peut-être un peu compliqué pour lui d'aller sur Facebook, de chercher Civisio, de regarder quelles sont les vidéos que vous avez faites, et de s'assurer de votre qualité de journaliste.
Ouais, mais le problème, par exemple, quand on rentre sur une manifestation, c'est tout à fait faisable. Quand il contrôle un journaliste avec sa carte de presse, il regarde son nom, il le met sur le côté quand même quelques instants. Je veux dire, ça prend pas plus de temps que de justifier non plus pour quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, qui fait ce travail-là.
Bref, vous n'allez pas la demander. Même si vous pouviez la demander, vous n'allez pas la demander.
Si, parce que j'ai pas envie de mourir.
Ah bah voilà, d'accord. D'accord.
Si, j'exagère un peu, mais la réalité... Mais non, mais parce que... Si, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que sinon, quand on n'a pas de masque, on ne peut pas être au plus près, et donc on ne peut pas voir... l'intégralité.
Alors, juste une question accessoire en voyant toutes ces images, c'est-à-dire celles que vous filmez et celles que diffusent aussi les chaînes d'infos sur les actes des samedis. On est quand même frappé par le nombre de téléphones portables, de gens qui sont là, alors qu'ils soient journalistes, pas journalistes, qu'ils aient marqué presse sur le casque ou pas, et qui filment. Il y a des scènes, par exemple, comme celle qu'on voyait au premier mail, là, qu'on est en train de voir, où vous avez deux ou trois personnes qui sont en train de balancer des projectiles sur le pare-brise d'une estafette, et il y a 20, 30, 40 filmeurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu délirant là, dans ces scènes qu'on voit
C'est super utile. Hein. C'est délirant, mais c'est super utile. C'est un mode, c'est leur mode. Moi, ce que je vois depuis 5 mois, c'est le mode de défense principal, et c'est encore le cas là, ce qui vient de se passer sur Salpêtrière. Le mode principal de défense, je trouve, c'est que tout est filmé. Donc face, on va dire, à la propagande, d'un côté ou de l'autre, les images sont extrêmement fortes. Et comme en plus les images, elles sont multiples, on n'a pas un angle, on en a deux, on en a trois, on en a dix.
Ce que je veux dire, c'est que sur une scène comme celle-ci, par exemple, vous avez trois personnes qui sont en train de balancer des projectiles sur un pare-brise.
Ce que je vois, c'est autre chose.
Qu'est-ce que vous voyez, vous ?
Moi, ce que je vois, c'est... C'est des images qui tournent en boucle sur BFM TV.
Oui.
C'est parfois un effet de loupe sur quelques événements.
C'était le sens de ma question.
Oui. Mais du coup, c'est problématique pour moi. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est que des journalistes ne vont pas filmer quand la manifestation, etc., est joyeuse, massive, etc. Et quand il y a un petit début de feu de poubelle, t'as une quarantaine de photojournalistes qui courent et qui sont tous accroupis à côté d'une poubelle. C'est tellement ridicule. Et en réalité, ça contribue aussi à la société du spectacle et aussi des images qui vont pouvoir tourner en boucle sur les médias pour servir une certaine ligne éditoriale. Après, c'est leur droit aussi, mais après, derrière, c'est se poser la question, par exemple...
C'est-à-dire qu'on voit deux choses, là, pardon. On voit que BFM choisit de faire son live sur cette scène-là, mais on voit aussi que BFM n'est pas tout seul et qu'il y a 20, 30 journalistes, beaucoup sont sans doute des journalistes indépendants comme vous, et qui sont là en train de filmer.
Après, c'est leur boulot aussi. Ils bouffent aussi. Après, moi, je ne suis pas là pour rejeter la responsabilité individuelle, mais à quoi on pousse ? Finalement, quand on sait que... Moi, je connais des gens qui vendent des images, j'en ai vendu aussi, etc., des chaînes de télé. Les chaînes de télé, c'est ça qu'elles achètent.
Mais c'est ce que j'allais dire. La réalité, c'est que...
Les chaînes de télé, c'est ça qu'elles achètent. Oui. Si tu prends une interview d'un mec qui te dit...
Ils sont
moi, je suis là, ici, je suis un travailleur, je suis sur un rond-point, je fais ci, j'ai fait ça. Mais jamais de la vie, tu la vends...
Est-ce que sur le terrain, on se rend compte que ceux qui filment les violences des manifestants, comme là, sont les mêmes que ceux qui filment les violences policières ? Ou est-ce que... On observe que chacun a un peu sa spécialité.
Il y a plein de pratiques différentes. Il y a plein de pratiques différentes. Et là, pour le coup, par exemple, quand on regarde sur la photo, il y en a qui sont simplement des photographes, il y en a qui sont en direct parce que ça se voit, on le voit d'ici, qui sont en direct. Il y en a qui prennent simplement des passages. Enfin, je veux dire, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a qui, Et puis la réalité, c'est là où je te rejoins, c'est que moi, je le vois tout simplement sur mon audience. Ça tape, ça gaze. Ça court, ça crie, l'audience, elle monte comme ça. Ouais. Tu discutes avec des gens, tu prends des interviews, la manifestation, elle est plus calme, etc. C'est pas la même chose.
Hein. Alors, du coup, faites quoi ? vous faites kiffer de l'audience ou vous, vous,
ah non,
vous résistez
à l'intégralité. Moi, par exemple, sur ce passage, moi, j'étais un petit peu plus en retrait. Donc là, je suis encore derrière le journaliste de BFM. J'étais au-dessus de lui. J'ai pris le passage. Mais après, quand j'ai vu qu'en fait, ils étaient en train de lancer juste des cailloux dans une estafette et que ça faisait, parce qu'à ce moment-là, ça faisait un quart d'heure là, qu'ils étaient en train de faire des allers-retours et qu'il y avait de la confrontation. Bon, bah, je suis pas resté une demi-heure, quoi. J'ai pris le plan, bon, bah voilà, j'ai avancé.
Moi, je vois ça, je
fais. Mais vous étiez en live ?
J'étais en direct. J'étais en face, en fait, quand c'est arrivé, donc j'allais pas tourner la caméra. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas resté pendant 10 minutes à filmer la scène.
C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une petite hypocrisie à séparer complètement les gros médias méchants de ceux qui filmeraient juste dans des intentions nobles. La réalité, c'est que chacun filme avec une intention éventuellement différente. Mais au fond, là, il y a tous les cas sur tous les cas. Il y a la grosse télé BFM et il y a les liveurs et tu y étais. Et donc, tout le monde cherche quand même à montrer des scènes, ces scènes. Après,
sauf Yacine Blotas, puisque lui nous explique qu'il n'est pas resté.
C'est, oui, enfin...
Moi, j'ai montré l'intégralité de la scène, en fait. Voilà, moi, je montre l'intégralité de la scène. Voilà. C'est ça,
c'est que... Ce que je dis, c'est
vous êtes quand même resté jusqu'à la fin de caillassage du Fabrice.
Non, c'est que la scène, c'est pas qu'une scène de caillassage. C'est une scène où, en fait, les forces de l'ordre ont repéré qu'il y avait une partie du bloc qui se retrouvait à cet endroit-là. Et donc, moi, par sécurité, je me suis mis le long du mur, parce que, justement, c'est aussi notre boulot de sentir les trucs, de voir quand ça va bouger, etc., pour éviter aussi de se retrouver dans les lignes, parce que voilà, comme on se déplace, voilà, on est obligé de faire attention à ça. Et là, à cet endroit-là, bah oui, j'étais à côté, donc j'ai vu la scène, il y a eu plusieurs charges, et après il y a eu ce caillassage, mais voilà, c'est pas ça qui résume la manifestation.
Ce qui est super intéressant, c'est la multiplicité des points de vue, en fait, c'est qu'il y a avant, on avait la Doxa, on avait la grosse chaîne qui montrait son point de vue, on aurait montré que ça. Et ce qui est super maintenant, enfin, ce que je trouve passionnant, effectivement, au niveau médiatique, c'est que dans ce mouvement, on a ce que je disais tout à l'heure, on a 25 points de vue.
T'as boif.
Moi, je vois cette scène, je filme pas.
Pourquoi ?
Je filme pas parce que t'as 45 journalistes qui vont faire passer ça sur les chaînes de TV d'Info en continu. Toute la France doit voir ces images. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, en tant que média alternatif, d'apporter autre chose, d'apporter une autre vision, d'apporter une autre... C'est pas de tronquer la réalité. Ça va passer sur les chaînes de télévision. Ce qui est important, c'est de montrer aussi autre chose. C'est raconter autre chose. Et je crois que c'est très, très, très important aujourd'hui qu'on puisse aussi dire que vous disiez que c'est bien parce qu'il y a la pluralité de l'information, des avis. C'est faux en réalité. Quand on allume notre TNT, on voit que ça. On ne voit que ça. Et on voit ça et on voit des mensonges aussi.
Non, mais la force des réseaux sociaux, elle est extraordinaire. Oui, les lives aujourd'hui qui sont suivis par des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes.
Mais c'est parce qu'à la télévision, ils ne montrent que ça, que les gens se replient sur les réseaux sociaux.
Ce que je dis, c'est que les canaux s'étant multipliés, on a une source d'information.
Oui, mais il y a une défiance. Il y a une défiance énorme vis-à-vis des chaînes de télévision.
Bien sûr.
Quand on se balade sur les réseaux sociaux et qu'on lit un peu les commentaires et qu'on discute un peu avec les gens, mais c'est des tombereaux de merde qui tombent sur les BFM TV, etc. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'ils servent des intérêts qui sont privés.
Non, mais ça nous amène à un autre aspect du débat sur ce que vous imaginez être votre rôle. C'est-à-dire que vous êtes journaliste au site Là-bas, et vous dites, voilà, ça s'appelle Là-bas si j'y suis.
Là-bas si j'y suis.
Ça s'appelle Là-bas si j'y suis.
Voilà.
Et vous dites...
On était sur le service public, hein, on s'est fait...
Figurez-vous qu'on est au courant.
Oui. Non, mais c'est pour ceux qui nous écoutent.
Et que je crois que les abonnés d'Arrêt sur Image sont
d'ailleurs,
au courant.
Abonnez-vous, les amis.
Et aussi Arrêt sur Image, mais enfin, vous l'êtes déjà si vous suivez cette émission. Et Daniel Mermet était venu au moment de son éviction de France Inter. Nous en parler. Juste un truc, c'est-à-dire que vous considérez que finalement, comme ça, c'est partout sur BFM, c'est pas la peine de le montrer aux abonnés de Là-bas si j'y suis.
Non.
Finalement.
Ouais.
C'est-à-dire que vous assumez comme média de complément.
On n'est pas un média de complément. Ce que je crois, c'est qu'on est un média engagé. On n'est pas des
gens. Parce que ça fait partie de la réalité aussi.
Oui.
C'est-à-dire les violences policières, c'est la réalité, et le caillassage de cette estafette, c'est aussi.
Sauf
la
que les violences policières, elles passent pas sur BFM TV.
Je vous parle de vous, je vous parle de là-bas.
On est, si vous voulez, un contre-pouvoir médiatique, si vous voulez l'appeler. Nous, on dit souvent, entamer la transition de l'information. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut arrêter de boire les images qu'on nous sert dans les grandes chaînes de télévision. Il faut aussi aller chercher ce qui se passe à côté et ce qu'on ne montre pas. Et nous, c'est notre rôle de montrer ça.
Alors, je voudrais juste illustrer, vous avez parlé de la défiance à l'égard des chaînes de télé. Bon, on connaît bien un peu la question ici, puisqu'on la documente chaque semaine depuis 12 ans maintenant. Alors, si les médias...
Et très bien, d'ailleurs.
Si les, pardon ?
Et très bien, d'ailleurs.
Merci infiniment de ce satisfait-site. Alors, si les grands médias connaissent une défiance grandissante, c'est lié aux reproches qu'on leur fait d'être souvent à la remorque des différents pouvoirs politiques, économiques, etc. Reproches, en général, il faut bien le dire, justifiés, comme l'a encore montré sur le dernier épisode, celui de la pitié salpêtrière, l'enchaînement des événements. Alors, je le rappelle en deux mots, on va en parler. Le soir du 1er mai, le ministre de l'Intérieur dénonce une attaque violente du service de réanimation de la pitié salpêtrière. On apprendra quelques heures plus tard, par des témoignages et des vidéos, que la trentaine de manifestants qui en effet ont fait irruption dans l'enceinte de l'hôpital, cherchaient surtout à se protéger des gaz lacrymogènes qui étaient tirés en abondance à ce moment-là, on l'apprend. Et voici pourtant la tonalité des chaînes d'infos.
Effectivement, des violences, il y en a eu, puisque plusieurs commissariats ont été attaqués. Et puis donc cet hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Ils sont entrés et ont affronté les CRS qui ont tenté de protéger l'entrée de l'hôpital.
Des casseurs ont attaqué l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière cet après-midi à Paris.
Plusieurs patients que nous avons rencontrés, familles de patients, nous disent avoir été extrêmement choqués par cette intrusion, par cette violence.
Le ministre de l'Intérieur parle d'une véritable attaque.
Cet incroyable déchaînement de violence, tout à l'heure dans un lieu qui devrait être épargné par ce genre de scène.
Non mais franchement, c'est devenu un refuge, un hôpital aujourd'hui?
On a l'impression que des tabous sautent à chaque fois. Je vais vous dire, je trouve ça effrayant. Moi j'ai 55 ans, la France, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on parle de 30 personnes qui entrent dans un service de réanimation aujourd'hui à l'hôpital Salpêtrière. C'est effrayant.
Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui sanctuariser encore plus les hôpitaux?
Mais quand même, il y en a quelques-uns pour qui le sanctuaire de l'hôpital, ça n'existe plus. Tout comme le sanctuaire d'une école, maire du 13e nous le disait tout à l'heure, ça n'existe plus. Tout comme l'Arc de Triomphe, qui devrait quand même, monument national, symboliser quelque chose d'un peu protégé, qu'on ne s'accache pas, ça n'existe plus.
Voilà, alors ça c'était la tonalité générale, et il y a eu des manipulations encore plus évidentes et plus grossières, par exemple un problème de photo qui s'est posé sur le site de France Info et qu'on a et qui a été relevé, c'est-à-dire que cette intrusion à la Pitié-Salpêtrière a été illustrée par cette photo qu'on voit là et qui ne se situe pas à la Pitié-Salpêtrière mais aux alentours du commissariat du 13e, distante quelques centaines de mètres. Alerté par les réseaux sociaux, France Info a changé sa photo et l'a remplacée par celle-ci, dans laquelle on voit un homme qui brandit un marteau devant un bâtiment, ce bâtiment qui n'est pas non plus le service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, mais la faculté de médecine, comme on le voit d'ailleurs sur l'inscription. Et photo dont on s'est rendu compte très vite qu'elle avait été recadrée, puisque sur la photo originale, on voit des gilets jaunes semblant s'opposer au monsieur au marteau et s'y opposer assez vivement. Alors, vous êtes finalement comme moi, Emmanuel Anison, une journaliste des anciens médias, des vieux médias, de l'ancien monde. Comment vous vivez cette espèce de, alors on peut dire défiance, comme disait Taha Bouaf, mais on peut aussi dire descente aux enfers de ces anciens médias dans la crédibilité publique, justifiée par ce qu'on vient de voir là?
Moi, je le vis en essayant de justement faire le boulot, c'est-à-dire depuis le début, en essayant d'être sur le terrain, jour après jour, et de ne absolument pas céder à cette façon de travailler qui est en fait hors sol, quoi, de plein de médias et qui raconte non ce qu'ils voient, mais raconte, je ne sais pas ce qu'ils racontent en fait. C'est vrai que moi, après semaine, je suis un peu effarée. Et il se trouve que vous avez montré l'extrait de Bruce Toussaint, là. J'étais sur le plateau, moi.
Ah oui?
Parce que, en fait, j'y vais donc régulièrement. Et j'ai vécu en direct, c'est-à-dire qu'on reçoit l'information, on était sur le plateau, il lance ce lancement qui est attaque de manière extrêmement forte. Justement, moi, ma façon de résister, entre guillemets, à ça, c'est que, ayant été sur le terrain pendant tous ces mois, j'étais sur le plateau et j'ai tout de suite dit, moi, je suis très étonnée de cette version, ça correspond ni aux Black Blocs qui n'attaqueront jamais un hôpital, c'est pas leur philosophie, ni à celle des Gilets jaunes qui ont aucun intérêt à faire ça. Et comme j'avais eu des retours de tous mes Gilets jaunes que je suis depuis des mois, qui m'avaient dit, ça a été un enfer, on n'a jamais été autant reçu de gaz lacrymo, ils étaient au boulevard de l'hôpital, ils me racontaient, ils venaient de me raconter en direct comment ça se passait, j'aurais dit, c'est pas du tout impossible qu'ils aient juste fui les gaz. Voilà. C'est juste. Et ça.
Vous avez dit ça à l'antenne.
J'ai dit ça à l'antenne. Vous avez coupé, hein.
Non, mais vous avez bien vu, c'est
juste pour vous dire que j'étais la seule, évidemment, à le dire, parce que les autres qui n'ont pas fait de terrain ont tout de suite dit, non, mais c'est sûrement une attaque, ta. Ce que je veux dire simplement, c'est que le terrain, c'est tout. C'est-à-dire que la seule manière de résister, moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux travailler en confiance avec tout ce monde depuis 5 mois, c'est parce que c'est le terrain, quoi. Et je pense que.
Et ces gens-là ne sont pas sur le terrain. Comment ça se passe dans une
Je pense que la plupart des gens qui vont sur ces plateaux ne font pas de terrain, ont juste des idées a priori nourries par leur lecture, les images, et ne font pas de terrain.
Donc c'est des mauvais journalistes.
Mais c'est une autre forme, c'est des éditorialistes, hein. C'est pas des gens de... Voilà. Et la seule façon, de résister à ça, c'est de continuer
de
à faire ce métier qui est juste à la base d'aller voir ce qui se passe.
Les articles de France Info, c'est pas des éditorialistes. Ils font des papiers où ils pondent des trucs comme ça. Ouais. Comment ça se passe dans la rédaction à ce moment-là?
Moi, je sais pas, France Info. Ce que je vois, c'est que les gens, ils sont derrière leur écran. Je sais pas. Je pense que c'est même pas volontaire. J'en sais rien. J'étais pas dans cette rédaction.
Quand on enlève des macrons sur les...
Le directeur,
c'est une erreur humaine.
Il a dit quoi?
Il a répondu à mon interpellation. Ouais. Vincent Giray, directeur de France Info, a dit c'est une erreur humaine. Il s'est excusé.
Mais la seule manière de répondre, c'est de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de faire ce métier qui est d'aller voir, d'entendre les gens, de raconter ce qu'on voit. Et quelquefois, je peux vous dire que ce n'est pas évident, parce que, y compris, moi, le premier groupe que j'ai suivi là pendant 5 mois, j'ai vu le 8 novembre. Je suis allée le soir les voir la première fois, c'est les premiers barrages, en prévision des premiers barrages. L'idée, c'était les 80 km/h, c'était sans doute infiltré par l'extrême droite. Il y avait déjà toutes ces idées autour de ce mouvement. Je tombe sur 12 personnes. Je vois que ça n'a rien à voir avec déjà ce qu'on commençait à penser du mouvement. Je vois que c'est complètement divers, qu'il y a des mecs qui ont voté Macron, des mecs qui ont voté Front National, des mecs qui n'ont voté pas du tout. Enfin, c'est très divers. Et que cette population qu'on va appeler après les Gilets jaunes...
Il n'y a que du Macron et du Front National?
Non, de tout. C'est ce que je dis.
Ah, d'accord.
C'est ce que je
vous
dis.
Vous n'en avez cité que deux.
Non. Et j'ai dit... Ben non, parce que je n'ai pas tout cité. J'ai dit qu'il y avait de tout et des gens qui n'avaient pas voté du tout. C'est ça que je viens de dire, justement. Et donc, je vois j'ai affaire, en fait, à 12 personnes complètement... voilà. Et en fait, à ce qu'on appelait après les Gilets jaunes. Mais rien que de faire passer cette idée... que non, c'est pas simplement des petits fachos manipulés par le Front National. Les premières semaines du mouvement, c'était déjà super compliqué de faire passer cette parole-là.
– Y compris à l'intérieur de l'Obs ?–
Mais y compris à l'intérieur de l'Obs, évidemment. Il y avait ce regard-là. Et au fur et à mesure des semaines, ça a toujours été compliqué de faire entendre à l'Obs ou ailleurs, enfin sur les chaînes de télé, parce que du coup j'étais souvent invitée pour raconter, et j'étais souvent invitée comme une espèce de caution terrain de la journaliste qui va dire ce qu'elle voit, mais bon, peut-être un peu en bed-aid, gilet jaune, parce que quand même... Alors que je suis désolée, moi j'ai juste toujours raconté ce que je voyais, et je pense que c'est ce que vous faites.
Mais sauf qu'on n'est pas reconnu par les autres journalistes.
Vous êtes combien à suivre les gilets jaunes à l'Obs?
Je suis la seule, en fait. J'ai demandé à ce qu'on soit plus nombreux, mais c'est vrai que je travaille.
On va juste répéter. Vous êtes la seule journaliste.
Ouais.
Allez-y.
Je voudrais dire.
Vous pouvez faire un petit montage et le repasser plusieurs
oui,
fois.
Oui, vous êtes
je suis la seule. Et en tout cas, la seule à les suivre, c'est, mais je suis comme vous, c'est-à-dire que j'ai pas de week-end, j'ai pas de soirée, parce qu'ils se voient en plus ce soir, ils me pourrissent tous mes week-ends depuis 5 mois. Moi aussi, j'ai mes problèmes de vie perso, parce que je n'en ai plus, enfin, tout mieux. Voilà.
Emmanuel Aziz, est-ce que vous avez essayé d'expliquer à la haute direction de votre magazine que c'était un phénomène social et politique important, et que, éventuellement, il pourrait être utile de vous adjoindre des renforts?
Bien sûr, c'est une discussion qu'on a.
Qu'est-ce qu'on vous répond ?
J'en ai eu ponctuellement, là, j'en ai un eu sur la dernière enquête. Je ne dis pas de temps en temps sur le terrain, quand il y a eu des grosses, il y a quand même, des journalistes qui sont venus sur les manifestations, notamment le 1er mai, ils étaient plusieurs.
Alors, qu'est-ce qu'on vous répond ?
Sur le suivi au long cours, on on n'était pas très nombreux.
Quelles sont vos réponses quand vous dites, attendez, non, mais attendez, c'est quand même important, c'est le phénomène politique majeur de la dernière année, peut-être même du quinquennat d'Emmanuel Macron, peut-être même de la décennie. Pourquoi je suis toute seule? On vous répond quoi?
On n'est pas une grosse rédaction, qu'on est moins grosse qu'auparavant, et que je ne sais même plus exactement combien on est, mais en tout cas, voilà, et que les autres font d'autres choses et que c'est certes important, mais qu'il y a d'autres sujets très importants.
Est-ce que selon vous, il n'y a pas quand même dans cette réponse qu'on vous fait une forme de, je sais pas comment dire, de mépris de la part de la direction de votre journal par rapport à ce mouvement dont ils ne sont pas forcément sympathisants?
Je pense que comme en fait 90% ou 19% en fait des gens en France, on a sous-estimé l'importance, mais c'est eux, comme beaucoup, beaucoup de gens. Vraiment, il y a eu une sous-estimation de l'importance sociologique, historique.
Mais au bout de dizaines de semaines, quand même, les gens
sont... Je pense que j'irai plus loin que vous. En fait, moi, je pense que c'est exactement le même problème qui fait que ce mouvement n'a pas été relayé correctement, que le problème de l'image, comme tu disais tout à l'heure. Et moi, je suis un peu entre vous deux par rapport à ça. C'est-à-dire que tu disais, moi, je passe devant eux, je ne filme pas. Moi, je vais le filmer parce que c'est ce qui a permis, de la même manière que quand il y a eu l'histoire de l'hôpital, de prouver que les gens, en fait, n'avaient rien fait. C'est-à-dire que quand tu filmes l'intégralité de la scène, tu peux voir aussi...
Tu parles de cette scène en particulier. Hein.
Les deux, parce que, pareil, la scène de violence qu'on a vue tout à l'heure, il y a eu aussi...
L'estafette.
Voilà, l'estafette. Elle est liée aussi au fait que les gens étaient emprisonnés dans un tout petit espace et que ça s'est mis à gazer. Parce qu'ils ont voulu choper 2-3 personnes. C'est-à-dire que pour choper 2-3 personnes, ils peuvent allègrement gazer des milliers de personnes. Ça les dérange pas. Ça les dérange pas. Et donc à ce moment-là, moi quand je la filme, je filme pas pour filmer 3 mecs qui balancent un pavé. Je filme pour montrer ensuite ce qui se passe avant, après, pendant. Et de la même manière que pour la scène de la Pitié-Salpêtrière, il faut préciser que c'était pas les gens... Sur le portail, c'est écrit que c'est la cité universitaire. Donc les gens qui ont forcé...
La fameuse grille qui a été...
Voilà, la grille qui a été forcée. Moi, je suis désolé, hein, moi, je suis passé dans la rue, pourtant, je connais Paris, etc. Je ne savais pas que c'était l'endroit où il y avait le service de réanimation. Je ne pense pas que les gens qui sont rentrés là pour se réfugier avaient dans la tête que c'était le service de réanimation. Et personne n'a forcé l'entrée. Quand ils ont essayé de rentrer, les gens qu'on voyait, ils étaient tous paniqués. Et... C'est pour ça que je dis que je suis entre les deux, parce que je comprends ton point de vue quand tu dis que je passe devant, je filme pas, parce que derrière, c'est instrumentalisé, en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie et on ne montre que ça. Et donc, toutes les personnes qui n'ont pas l'opportunité d'aller sur les réseaux sociaux ou qui n'y vont pas parce qu'ils ont cette représentation-là, parce que c'est pareil. Si on vous dit que les réseaux sociaux, c'est pas très fiable, qu'il y a des fausses informations, qu'il faut se méfier, etc., les gens n'y vont pas. En tout cas,
il fait aussi à la télé.
Mais c'est pareil. Mais en fait, c'est un combat, comme tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un combat.
C'est juste ce que je veux dire, c'est que sur des scènes comme ça, tu vois, où t'as 3 gus qui défoncent un camion et que t'as 50 journalistes.
Non, non.
Tu vois, c'est de la mise en scène.
Pour moi, c'est pas de... Mais c'est là où c'est important.
Ça reflète pas la réalité de la manifestation, en fait.
Exactement. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, quand je filme, je suis en direct pendant toute la journée. Je pense que.
Arrête, ton format est différent.
Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'éclaircir. C'est parce qu'il y a plein de formats différents aussi. Donc moi, comme je suis tout le temps en direct, je prends l'intégralité des scènes, parce que c'est ce qui permet d'expliquer aux gens, de dire, à ce moment-là, il s'est passé ça, parce qu'il s'est passé ça avant, qu'il y a eu tel truc, etc. C'est pas juste, on vous prend une scène et on vous montre des mecs qui cassent. Ça peut pas se résumer à ça. Et de la même manière que la Pitié-Salpêtrière, ça ne peut pas se résumer à ça. Et c'est pour ça que j'ai aussi posté, moi, le soir même, une partie de mon direct, qui avait aussi été repris sur Twitter, etc.
Les images qu'on voit derrière sont vos images.
Hein. Ce sont mes images, oui.
Ce qui est assez drôle, Daniel, c'est que j'ai été hier devant le Trois Quais de l'Horloge, au commissariat, où étaient en garde à vue les interpellés de la Salpêtrière. Et j'étais là à leur sortie de garde à vue. Et donc, il y avait des journalistes BFM TV, CNews, etc., qui se sont rués immédiatement sur les gens qui venaient de sortir en leur demandant des interviews. Et ben, je peux te dire qu'ils sont tous fait dégager. Il n'y a pas un seul qui a fait une interview. Nous, on arrivait, je me suis présenté, là-bas, si j'y suis, voilà, voilà mon taf, tac, tac, tac. Et j'ai fait mes interviews.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les interpellés eux-mêmes n'ont pas souhaité être interviewés par les...
Non. Ils l'ont dit, vous êtes quel... Jacques, voilà, exactement, ce retraité-là. Il y a une bonne femme de BFM TV qui vient lui dire, voilà, je suis journaliste à BFM TV, je peux interviewer. Il lui dit, pardon, vous êtes journaliste où? Il dit BFM TV, il dit j'espère que vous courez vite. Donc bon, c'était un peu dans le.
Il a pas l'air comme ça, hein. On se dit retraité, paisible.
Sur le ton de la plaisanterie, mais il lui a dit mais hors de question
il est hors de question que je réponde à une interview. Vous, quand j'étais en garde à vue, vous nous traitiez de criminels, de gens qui ont attaqué un hôpital, etc.
Mais en garde à vue, on peut regarder BFM TV ?
Non, mais on lui a dit.
On lui a dit,
il a parlé avec son avocat. Donc, il sait un peu à peu près ce qui s'est passé. Et puis, c'est pour ça que je vous parle de défiance. Et moi, je suis très en colère contre ces médias. Je suis très en colère contre ces médias parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Et on l'a vu depuis ce mouvement des jeunes de façon très flagrante parce que les gens ont pris cette habitude de filmer. Les lambda aujourd'hui sortent leur téléphone et filment et c'est très bien. C'est un réflexe qu'il faut avoir.
C'est un outil de défense, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la manière de rétablir.
Je suis totalement d'accord. Voilà. Sauf que ça ne doit pas déresponsabiliser pour autant les autres journalistes. On doit leur dire qu'ils ont des comptes à rendre, qu'on paye une redevance, que ces gens-là sont subventionnés. Et alors, dans ce cas-là, s'ils veulent un peu raconter des conneries, qu'ils ne soient plus subventionnés.
Et il vous arrive de les croiser sur le terrain ?
Ouais, moi, je
de discuter avec eux ?
Ouais.
Et de leur dire exactement ce que vous dites là ?
Voilà. Les journalistes qui sont fait refuser, ils disent « Oui, mais c'est dommage, mais nous, on est là aussi pour rétablir, mais machin. » Mais tu sais, ils sont toujours gentils quand ils sont là. Et puis moi, je n'en veux pas aux gens qui sont là, qui tiennent la caméra, qui restent 4 à 5 heures debout dans le froid. Je ne suis pas là pour leur jeter la pierre. Mais ce que je dis, c'est qu'au fond, ils servent aussi un truc un peu plus global qu'eux, quoi. Et qu'à un moment donné, moi, je leur dis « Remettez-vous en question. »
Et quand vous leur dites ça, qu'est-ce qu'ils vous répondent ?
Ben, ils me disent, voilà, écoute, c'est un peu creux. Ben, moi, je fais mon boulot, tu sais. Moi, on me demande des images, je fais des images. Et puis, t'as ceux qui sont convaincus qu'ils font quelque chose de bien. Ils te disent, mais non, mais c'est ça et tout, c'est le débat, c'est le machin. Mais non, regarde, on a fait ci. Et qui essaient de justifier par tous les moyens que ce qu'ils font, c'est pertinent. Mais quand tu leur expliques et tu leur donnes des éléments, et vous, votre travail, il nous est aussi essentiel de décortiquer, de s'arrêter sur ce qui s'est fait, sur ce qui s'est pas fait. Et en fait, les gens sont persuadés. J'ai l'impression qu'ils sont matrixés, en fait. Vraiment, quand je parle avec eux, ils sont matrixés. Et ils sont dans une sorte de pseudo-neutralité. Mais je leur dis, mais ça n'existe pas, la neutralité. À partir du moment où tu choisis de traiter un sujet et pas un autre, déjà, tu as fait un choix politique. Un angle et pas un autre, une virgule est politique dans ton papier ou dans ton sujet. À un moment donné, il y a juste, pour moi, des journalistes qui assument d'où ils parlent et d'autres qui n'assument pas d'où ils parlent.
Alors, vous m'amenez sur un plateau, la transition vers le dernier débat que je voudrais conduire dans cette émission, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un journaliste ? Est-ce qu'un journaliste doit être objectif, impartial, ou est-ce que l'impartialité n'existe pas ? Bon, bref, vaste question éternelle comme notre profession. Qui s'est reposé cette semaine, toujours à l'occasion à la suite de la garde à vue de Gaspard Glanz, donc qui n'est pas considéré comme un journaliste par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, on l'écoute.
Le fait de prétendre être journaliste n'est pas un permis de commettre des délits.
Pourquoi d'être journaliste ? D'abord, il n'est pas pour vous.
Alors, je vais vous dire, très simplement, je pense que journaliste, c'est aussi avoir une carte de presse.
Parce qu'à cette condition...
Je pense que c'est ça. Et puis alors, est-ce que c'est être journaliste ? Je vais être un peu brutal, mais moi, je ne connaissais pas ce jeune homme avant le week-end dernier. Et comme il y a eu un débat, vous savez, quand il est interpellé, évidemment, ça ne rentre pas au ministère de l'Intérieur. J'ai regardé notamment ce qu'il disait de moi. Ça doit être un vrai journaliste d'investigation. La dernière fois qu'il a parlé de moi, son tweet c'était « Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner ». Voilà ce que vous pensez peut-être être un journaliste, moi non. Et donc, samedi dernier, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a provoqué les forces, il leur a fait un doigt d'honneur. Je vous le dis, c'est pas parce qu'on met une GoPro sur un casque et qu'on se revendique journaliste qu'on a une impunité.
Bon, alors un certain nombre de confrères sont d'accord avec lui, par exemple l'éditorialiste Christophe Barbier, qui a développé la même idée, mais d'une manière assez étonnante, un autre éditorialiste qu'on aurait pu attendre sur un autre terrain a pris le contre-pied de cette manière de dénier la qualité de journaliste à Gaspard Glanz, il s'agit de Jean-Michel Apathy.
Pour discréditer Gaspard Glanz, c'est ça qui m'a le plus interpellé. On le qualifie de journaliste militant ou engagé. Ça n'existe pas. Les journalistes, au fond, sont toujours militants de quelque chose, consciemment, inconsciemment. Ils s'associent à une aventure politique ou ils appartiennent à un projet de presse qui a une certaine conception du monde. On est toujours engagé quand on est journaliste. Et on est simplement journaliste. Voilà.
C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est la définition du journaliste.
Oui, puis c'est même la définition de la vie. On a toujours... L'objectivité n'existe pas. Enfin, on est construit, on est fabriqué. On a une représentation du monde. Et c'est à partir de cette représentation que l'on regarde les événements. Et Gaspard Glanz, il est journaliste. Voilà, il filme et il restitue sur son site Tanaris News ce qu'il filme. Et donc la tentative de discréditation par les policiers du travail de Gaspard Glantz, c'est quelque chose d'assez insupportable. Il faut que les citoyens se fassent leur opinion par rapport au travail de ce journaliste, très bien. Ils adhèrent pas, ils aiment pas, d'accord. Mais ça n'est pas à la police de dire « Ah, mais monsieur, vous êtes engagé, vous êtes... » C'est insupportable, ça.
Pourquoi en souriez-vous ?
Pardon ?
Pourquoi souriez-vous en l'écoutant ?
Parce que je suis totalement d'accord avec lui, mais totalement. Vous savez...
C'est ça qui vous fait sourire ?
Je suis totalement d'accord avec lui, mais à 10 sur 10, je lui mets. Vous savez, récemment, on a fait une enquête avec un confrère sur Ismaël Emelien, sur les montages qui ont été faits par la cellule de riposte de l'Élysée au moment de l'affaire Benalla. Et quand on a appelé la préfecture de police pour avoir des précisions sur la réglementation par rapport... à l'affichage de l'horodatage sur les caméras de vidéosurveillance, on nous a dit « Ok, vous êtes journaliste, envoyez-nous votre carte de presse, scannez-la nous. » Bon, il se trouve que mon confrère, il en avait une, donc on l'aura scannée. « C'est quoi votre site internet ? C'est quoi votre machin ?» On leur a envoyé notre site et la préfecture de police nous a rappelé pour nous dire « Écoutez, là, on vient d'aller sur votre site, la première chose sur qu'on tombe, c'est Macron, on t'emmerde, je sais pas quoi. Macron, je sais pas, mais on lui dit, bah voilà, ça c'est un édito, etc. Bon, il me dit, oui, mais bon, là, un peu tous les articles tapent sur Macron et tout. Il me dit, oui, mais bon, ça c'est pas votre problème, nous on est journalistes, on vous avez une carte de presse, on est un organisme de presse reconnu, etc. Il me dit, oui, mais je crois que, non, le journaliste, bah, je crois pas que ça c'est du journalisme. Même la préfecture, l'attaché de presse de la préfecture de police nous dit, vous n'êtes pas des journalistes. Parce que on a une certaine éditoriale. Mais je suis désolé, quand des éditorialistes sur BFM TV disent « Voilà, c'est magnifique, Macron, le révolutionnaire, il est beau, il est gentil, il a fait ça, il est trop bien », on leur dit pas qu'eux, ils sont pas neutres et qu'ils sont… Et c'est alors, ça qui est assez drôle, en fait.
Alors, ça pose une question de fond, quand même. Est-ce qu'on peut être journaliste et écrire un tweet traitant le ministre de l'Intérieur de « grosse merde » ? Il me semble que ça pose une question fondamentale sur le métier de journaliste.
Est-ce qu'on peut être journaliste et traiter de vermine des manifestants ?
Alors, est-ce que vous faites la même réponse pour les deux, en fait ?
Écoutez,
vous avez raison, ça pose exactement la même question.
Ça pose exactement la
même question. Et quelle est votre réponse ?
Moi, ma réponse, c'est qu'on peut être journaliste et faire des conneries, oui. Personnellement,
et faire des conneries.
Je vous dis.
Parce que c'est une connerie.
Non, pour moi, on peut. Après, ça, c'est propre interprétation. Pour moi, je pense que Christophe Castaner est une grosse merde. Moi, je le dis ici sur votre plateau. Mais après, s'il veut porter plainte pour injure publique, il peut le faire. Mais ça ne lui retire pas pour autant le statut de journaliste à Gaspard Glantz. Il peut, s'il veut, insulter les gens. Enfin, je sais pas, mais ça ne rentre pas en compte dans la grille de lecture de savoir est-ce que quelqu'un est journaliste ou pas.
Donc, Tahabouaf vient de répondre. En acte. En acte.
Ensuite, tu penses que c'est une grosse merde.
à la question que j'avais posée, même question, est-ce qu'on peut être journaliste et traiter... Alors, soit les manifestants de vermine, soit le ministre de l'Intérieur de grosse merde.
Moi, je pense que c'est pas notre rôle de juger de ça. Je pense que, de toute façon...
Non, mais votre conception à vous.
Moi, je suis pas fan de du ministre et je voilà, enfin personnellement,
c'est une autre manière de dire les choses.
Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est une manière de décentrer les sujets. C'est-à-dire qu'on va vous parler d'une action pour discréditer quelqu'un, ça sert à discréditer ça. Mais Gaspard, comme plein d'autres, il a fait énormément de sujets, il a travaillé sur plein de terrains, et il a fait un boulot de journaliste, ça s'arrête là. Monsieur Castaner a été pris en flagrant délit. D'ailleurs, on l'appelait pour ça votre Castaner. Quand il a été chopé dans la boîte de nuit, etc., bon, bah voilà.
Enfin, ne mélangeons pas tout. Je crois qu'il faut.
Non, mais c'est une manière de travailler sur l'image. C'est-à-dire que si on s'arrête là-dessus. Voilà, c'est sa vie privée.
Non, attendez. Non, mais c'est pas à cette occasion-là que Gaspard Glantz avait fait ce tweet. Il faut rappeler dans quel contexte. Dans quel contexte Gaspard Glantz avait fait ce tweet. C'était à la suite d'une déclaration de Christophe Castaner expliquant que, en Méditerranée, les ONG étaient les complices des passeurs. C'est à la suite de cette déclaration-là que, effectivement, voilà.
C'est une manière de dire simplement qu'on ne juge pas quelqu'un par rapport à un seul de ses actes.
D'accord.
Voilà. Tout simplement.
Mais ça ne retire pas son statut de journaliste.
Et ça ne retire pas son statut de journaliste, et ça n'a rien à voir. En fait, c'est pour ça que je vous disais ça. C'est-à-dire que c'est pareil, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il a dit ça que ça a à voir avec le
statut. Que pense la journaliste de l'Ancien Monde ?
Non, mais arrêtez, parce que la journaliste de l'Ancien Monde, aujourd'hui, elle fait son boulot comme le font tous les deux, et donc je refuse cette qualification. Excusez-moi, mais j'ai fait le même travail que depuis 5 mois.
Que pense Emmanuel Anisson ?
Et par ailleurs, excusez-moi aussi, les retours que j'ai de ceux qui sont sur le terrain et que je croise depuis 5 mois sont bons. C'est-à-dire que moi, si je vais voir ceux qui sortent de garde à vue, ils me parlent aussi aujourd'hui. Donc, parce qu'ils estiment que le travail que je fais est correct. Donc,
Non, non, alors...
On arrête un peu, quand même. Voilà. Non, mais c'est juste qu'il y a un moment... Moi aussi, j'y passe mes week-ends, mes soirées, mais ouais. et par ailleurs, le boulot que je fournis, on n'estime pas que j'ai été indigne chez les Gilets jaunes depuis 5 mois. Quoi.
Moi, j'ai eu votre papier, moi, ça...
Voilà,
Non, mais alors, sous cette question qui peut être, qui peut paraître anecdotique.
Moi, c'est vrai que ça me choque. C'est-à-dire que, pour le coup, je suis, en tant que journaliste, je sais bien que la neutralité n'existe pas, l'objectivité n'existe pas. Si aujourd'hui je passe autant de temps sur ce mouvement, c'est que je pense que fondamentalement, il est intéressant, il est profondément intéressant sociétalement, et c'est pour ça aussi que j'y passe autant de temps. Donc, c'est un choix, en tant que tel, de passer du temps ou de ne pas en donner, et d'aller voir tel ou tel, bien sûr.
Donc, on n'est pas
neutre. En même temps, moi, le but de ce métier, pour moi, c'est jamais d'être dans le jugement. C'est-à-dire que soit on dénonce des faits parce qu'on a enquêté, on révèle des choses inadmissibles et on sort les faits, soit on raconte ce qu'on voit, on essaie de faire... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire comprendre ce qui est en train de se passer sous nos yeux et qui est très compliqué à comprendre. C'est vrai que je ne me verrais pas dire « ils sont extraordinaires » ou « ce sont des vermines ». Voilà. Dans les deux cas, je pense que je sors de mon rôle.
Après, on est aussi des citoyens. C'est-à-dire qu'on peut juger aussi des paroles d'un de nos ministres sur notre Twitter
privé,
personnel.
En privé. C'est-à-dire que le
problème. Donc on n'a plus le droit de parole.
Alors, pour le coup, moi, je pense que quand on est journaliste, on a une responsabilité publique. Je ne tweete pas, je n'écris pas, je n'exprime pas en public.
Notre avis.
Pour moi, en tant que journaliste, j'ai une responsabilité publique. Je ne vais pas dire ce mec est une vermine ou ce mec est une merde.
On n'a pas le droit de donner notre avis quand on est journaliste.
Si c'est, je donne mon avis, moi, en travaillant. C'est-à-dire, je donne mon avis en dénonçant des choses avec des faits.
Oui, mais on peut avoir un avis sur des paroles d'un de nos ministres, quand même. Enfin, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on n'a plus droit...
En tant que citoyen, bien sûr.
On est des citoyens et des journalistes. Et donc, on a le droit d'utiliser nos propres réseaux sociaux à notre prénom et à notre nom, pas au nom de notre rédaction, pour dire que...
C'est là qu'il y a une ambiguïté. C'est-à-dire, pour moi, Twitter, c'est en tant que journaliste que j'y apparais.
Ils donnent bien leur avis,
éditorialistes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est qu'on ne ferait pas le même métier que les éditorialistes. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, quand vous dites « grosse merde » ou « vermine », vous êtes exactement
comme vous dites aujourd'hui que les éditorialistes ne sont pas des journalistes.
J'ai dit que c'est un autre métier. Ils ont la carte de presse journaliste, mais on ne fait pas le même métier.
Donc, c'est pas des journalistes.
On ne fait pas le même métier. Si,
c'est ça. Il est terrible, il est pire que moi.
Non, on ne fait pas le même métier. Je ne pourrais pas être éditorialiste, quoi. C'est clairement, c'est pas du tout.
C'est un travail qui se fait dans la rencontre et donc il n'y a pas de problème.
C'est dégradant, mais on ne fait pas du tout le même métier.
Mais non, mais pour moi, c'est. Non, mais moi, je le rejoins. Ils ne sont pas dans la rencontre. Qu'est-ce
que vous pensez de la de Castaner quand il dit et que les passeurs sont les complices des ONG.
Que les ONG en Méditerranée étaient
les complices des passeurs. Vous en pensez quoi?
Non, mais moi, pour moi, la réponse, c'est d'aller montrer
Vous pensez quoi de ces paroles?
Mais je n'ai pas à dire ce que j'en pense en tant que citoyenne. Je suis désolée. Moi, je suis ici en tant que journaliste. Non, mais vraiment, hein. Vraiment.
Bon,
pour moi, ce qui est super intéressant, et immédiatement, c'est d'aller voir sur le terrain et d'aller raconter l'inverse. La personne qui suit ce sujet, c'est d'aller, pour le coup, contredire ce qui se dit. Mais moi, en tant qu'Emmanuel Anison, n'ayant jamais travaillé sur cette question, je ne vais pas m'exprimer en tant qu'Emmanuel Anison sur cette question. Pas publiquement. Après, ça n'empêche pas qu'entre copains, le soir, en dînant, on peut dire ce qu'on en pense. Mais en ayant zéro compétence, zéro... c'est du café du commerce. Mon métier, ce n'est pas d'être café du commerce, quoi. Profondément.
Ce n'est pas du café du commerce.
Emmanuel Anison, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pensez donc de ces... Alors, ancien monde, nouveau monde, ok. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça, mais de ce monde d'aujourd'hui dans lequel les journalistes, comme Tahabouaf... comme moi-même d'ailleurs, sommes sur les réseaux sociaux et parfois, en effet, formulons des jugements à l'emporte-pièce. en dévoilant davantage sur nos sentiments profonds que nous ne l'aurions fait il y a 20 ans ou il y a 30 ans avant les réseaux sociaux.
Non mais Daniel, pour le coup, vous êtes exactement... Enfin vous, votre métier, ça a toujours été de décrypter. Donc vous êtes dans ce rôle depuis toujours.
D'accord.
Et je ne peux pas dire que vous n'êtes pas journaliste. C'est pour ça que...
Moi j'ai le droit.
Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais non, mais vous déformez. Non, mais c'est marrant, vous déformez ce que vous voulez, je veux dire. En plus, c'est marrant. On a des façons différentes de faire ce métier. Moi, je me parle en tant que reporter. Je suis reporter. En fait, c'est juste ça. Et je me sens, et je pense, honnêtement, je ne suis
mais
pas
lui,
sûre.
Mais regardez, lui aussi,
je ne suis pas sûre qu'ils exercent le métier de la même façon
non
plus.
Non, mais t'as un bout à faire, reporter. Je pense
qu'ils ont aussi, d'ailleurs, ils ont exprimé tous les deux une façon différente sur cette question de Castaner. J'ai le droit de, vous voyez, on a le droit de pas avoir la même position.
Mais c'est, je veux dire, à partir du moment où le ministre s'autorise à faire ça, pour moi, le problème, il vient de là, en fait. C'est-à-dire que c'est une personnalité politique importante. Il est censé prendre son rôle avec considération. Et donc, considérer aussi les gens, avoir une certaine dignité, faire attention à ce qu'il dit, etc. Le problème, il est là. Le problème, il n'est pas dans la réponse des gens, il est dans sa prise de position, dans la prise de position des personnalités politiques qui se permettent, tous les jours, de mépriser les gens. Le problème, il est là, en fait. Après, qu'on puisse relever un abus de langage, que lui, il ait dit ça, ou lui... mais le problème, il vient de ça, il vient de là, de son attitude. Parce que M. Castaner a fait des vidéos où il reprenait sur son compte privé, c'est pareil, il a fait la même chose. Il a fait la même chose, sauf que lui, il est ministre.
Oui, il est ministre.
La façon de répondre, c'est d'enquêter sur Castaner, de sortir un portrait au vitriol. Enfin, vous voyez, pour moi, la réponse
journalistique, elle est là. Et d'aller en Méditerranée.
Et d'aller sur le terrain vérifier.
Sur l'Aquarius
Quand il a donné des fausses informations. Après, moi, comme je vous dis, c'est pas le sujet que Gaspard ait dit ça ou n'importe qui d'autre. Quand vous allez dans les manifestations, il y a des dizaines de personnes qui se plaignent,
utilisent des propos différentes sur le fait de donner son avis, d'émettre des jugements. Après, je ne le fais pas forcément.
Par ailleurs, excuse-moi, mais la passage justice, c'est extrêmement militant politiquement. Vous savez, comme vous dites...
Engagé. On peut être militant dans nos vies, parce qu'on a aussi des gens
donc, de fait, il a une vision de ce métier qui ne va pas être la même.
Et vous diriez que l'OP, c'est moins engagé que la passage justice.
Mais moi, je n'ai jamais été militante politiquement, engagée politiquement.
Le journal.
Je parle de mon travail, moi. Excusez-moi, je n'ai pas été à l'OP toute ma vie. J'ai fait 10 médias.
Mais le journal, parce que vous dites la passage justice est engagée. Mais si vous direz que le journal...
Je ne sais pas à quel parti politique est affilié la Bassigie.
Je parle de votre façon de parler.
Vous n'allez pas vous planquer derrière l'objectivité ou la neutralité, etc.
Non, je crois qu'il y a méprise. Ce que je dis, c'est que la Bassigie est un média engagé, c'est-à-dire qu'on assume d'où on parle, mais on n'est pas un média engagé... On n'est pas un média de militants politiques. On peut être militant politique dans nos vies, à côté. C'est pas le sujet. Oui. Nathalie Saint-Cricq, elle était bien...
Non, mais moi, je voulais poser une question à Emmanuel à 10 ans. Vous dites, là-bas, si j'y suis, t'es un média engagé, t'as à boire...
Elle a dit, c'est un média militant politique.
Militant, avec un engagement politique, il me semble.
On est engagé. On est engagé. On assume. Donc, pas regarder d'ailleurs le grand procès de Macron mardi 7 mai. C'est bien différent de dire un média militant et un média engagé. C'est très différent.
Il y a des individus dans un média. C'est-à-dire que nous, dans l'Obs, il y a des gens qui sont très à gauche, très très à gauche. Il y a des gens qui sont très macronistes. Ça dépend ce que vous dites. C'est à droite. Et donc, nous, par exemple, ça, on peut même pas dire l'Obs, parce que sur 70 journalistes, il y a des gens qui.
Mais là, vous avez dit
le journaliste. Si je peux poser une petite question, après, je vous redonne la parole. Le fait que ce journal, depuis le début, n'est affecté qu'une seule journaliste en votre personne au mouvement des Gilets jaunes, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de s'engager ?
C'est un choix éditorial, clairement.
Ce n'est pas une manière de s'engager.
Voilà. C'est une manière, mais bien sûr...
N'est pas une manière de s'engager.
C'est un choix éditorial de ne pas avoir mis plus de gens sur le terrain. En revanche, je peux vous dire que depuis le début, j'écris sans qu'on me change une virgule. Donc là aussi, sur ce qu'on appelle la censure, etc., j'écris absolument ce que je crois juste, moi, dans mon métier. Sans que jamais on ne pose problème.
Et si tu n'avais pas pris le sujet, comment ça se serait passé?
Quelqu'un d'autre l'aurait pris, sans doute, et différemment.
Il faut espérer.
Après, c'est...
Parce que le problème, il est là, en fait, peut-être aussi.
Oui, mais après, c'est un métier d'individu, vous le savez très bien. Chacun,
mais c'est profondément un métier individuel. C'est ton engagement qui fait que, pour toi, c'était un sujet important à montrer, etc. Et donc, je pense que la nuance dans tout ça, elle est là. C'est qu'on est tous des êtres humains, en fait.
Je pense que c'est une belle conclusion pour cette émission.
Nous sommes tous des êtres humains, je confirme.
Merci à tous les trois pour cette forte instructive rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.